Bonjour, bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blau au micro, Maurice Bolduc à la technique. Voilà, aujourd'hui c'est bien jeudi, là. Il y a Myriam Larrage qui va nous remplir les oreilles avec les nouvelles du sport, les nouvelles sportives. Et puis en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Luc Langevin qui va nous parler d'illusions. Voilà, son numéro interconnecté qui démarre bientôt d'ailleurs. Et puis non seulement ça, il est l'un des porte-parole de la guignolée des médias. En fait, d'une pierre deux coups. On part tout de suite à musique avec Loco Akanza, Envie d'aventure.
Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard, avant l'habitude, avant le dernier appel. Avancer plus vite, inventer l'avenir, faites qui nous aime. Avant d'espérer un vent de liberté, devancer la vie, éviter les ennuis, vendre la peau de l'autre avant de l'avoir aimé, à quoi ça rime? Apprêter nos vies à n'importe qui, en priant la fortune de nous priver du pire. Après nous, le déluge s'apprête à nous sourire. Après tout, le présent est futur. Yeah. Mais faites qui nous aime. Faites qui nous aime. Avant d'être à vendre, juste avant de se rendre, avant d'essayer d'avoir une autre chance, davantage en nature, davantage sans armure, et le cœur plus vif. Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard, avant l'habitude, avant dernier appel. Avancez plus vite, inventez-vous la vie et faites qu'elle soit belle. Apprêtez nos vies à n'importe qui, en priant la fortune de nous priver du pire. Après nous, le déluge s'apprête à nous sourire. Après tout, le présent est futur. Mais faites qui nous aime. Oh, faites qui nous aime. Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard, avant l'habitude, avant dernier appel. Et avancer plus vite, inventer l'avenir. Faites qui nous aime. Faites qui nous aime.
Envie d'aventure, comme je vous disais en début d'émission, quand je plantais le décor de l'émission, je lui dis aujourd'hui c'est bien jeudi et Myriam Larrage va nous remplir les oreilles avec les nouvelles sportives. Bonjour Myriam.
Bon après-midi Fulgence et à tous nos auditeurs en ce jeudi bien pluvieux.
Oui, il faut même pas le dire, sinon ça va revenir. Ça c'est un peu là. Comment vas-tu Myriam?
Ça va bien. Oui. On va bien, j'espère, à quelques mois de la fin de l'année, hein, 2021.
Oui, oui. Alors,
elle approche à grands pas.
C'est ça. Alors, allons, envoie-nous le cocktail sportif, là.
Exact. Alors, OK, Fulgence, j'espère que tu n'as pas pu rater le changement de garde qu'il y a eu, n'est-ce pas? Alors, personne ne peut parler de surprise au vu des performances catastrophiques du Canadien de Montréal. Son vice-président et directeur général, le fameux Marc Bergevin, a été congédié. Enfin, diront certains, dont je fais partie si j'enlève mon chapeau de chroniqueuse sportive et je donne mon avis personnel en tant qu'éditorialiste. Et certains tristes, dont certains joueurs, disent-ils. Le directeur général adjoint et le vice-président principal des affaires publiques et communication du groupe. Trevor Timmins et Paul Wilson sont également relevés de leurs fonctions. C'était sa garde rapprochée à lui, ça. Hein. C'était ses acolytes dont il ne se séparait jamais.
Depuis des décennies.
Alors,
hein.
Voilà. Alors, Jeff Molson a fait le ménage. Et quand il l'a fait vraiment dans le sens propre du terme. Le propriétaire, donc, et président de l'organisation, Jeff Molson, a écrit « Le moment était venu de procéder à un changement de leadership dans notre département hockey qui sera porteur maintenant d'une nouvelle vision. » On dirait que Bergevin laisse derrière lui quand même un bilan à demi-teinte. La participation de son équipe à la dernière finale, à la dernière saison à la Coupe Stanley demeure une incroyable et superbe surprise. Mais si le tricolore rate les séries cette année, ce qui semble inévitable, on peut se le dire déjà, ça va être quand même la quatrième fois en cinq ans que les Canadiens ne font pas les séries. C'est énorme, hein, Fulgence.
Myriam, qu'est-ce qu'il en est de l'entraîneur au fait? Quand l'équipe joue mal, c'est à ceux-là qu'on montre les premiers la porte. Hein.
Et il a duré longtemps, parce qu'il y en a qui disent depuis cinq ans, il faut qu'il s'en aille. Je faisais partie de ça, moi, il y a cinq ans, je disais, ça y est,
Mais peut-être qu'ils sont amis en vie privée, voilà, pourquoi pas. Oh. Ouais, c'est
il avait un contrat peut-être bien de béton. En tout cas, c'est Jeff Gorton qui vient à la rescousse. Alors, on a nommé Jeff Gorton, un Américain, au poste de vice-président exécutif aux opérations hockey du Canadien de Montréal. Et le milieu sportif et les médias n'ont que d'éloges à son égard. Un recruteur, dit-on, de talent, qui est de talent patient et qui est minutieux. Donc, il va bien faire son travail. Mais il y en a toujours qui grognent, hein. Il est unilingue, Fulgence, anglophone, donc ça fait grincer des dents.
Mais c'est le milieu du hockey. Le milieu du hockey n'a jamais été francophone, c'est l'Amérique du Nord.
Pourquoi ils disent ça? Ils disent donc que ça va être un recruteur qui ne va pas aller chercher des Québécois. Parce que pourquoi on recrute souvent des coachs et des machins du Québec? Parce que ça va chercher des joueurs, ça va donner la chance à des jeunes prodiges québécois qui montent, n'est-ce pas? Là, celui-là, c'est un recruteur américain. Donc, on va voir. Tout le monde espère que le prochain DG va être francophone.
Ils n'auront pas le choix. Déjà, on vient de le recruter. On parle déjà. On pense déjà à son départ.
Non, parce que lui, il est directeur. Il est vice-président.
Ah, moi, d'accord.
Un directeur général. Parce que Bergevin avait les deux chapeaux. Hein. Il était vice-président et directeur général.
Et il avait un adjoint, voilà. Quelque chose comme ça, ce genre. Ouais.
Celui-là, il est juste vice-président exécutif.
Ah, bon, d'accord.
Ils sont à la recherche d'un directeur général. Mais... Alors, devine, plusieurs noms sont sortis, mais qui est-ce qui est venu dans les tribunes crier haut et fort que je veux être le DG de Montréal? Je le donne dans le mille. C'est Patrick Roy. Alors, Patrick Roy,
Tu
connais Patrick Roy, j'espère?
Oui.
Un des plus célèbres gardiens de but de la LNH et du Québec.
Oui.
Alors, Patrick Roy, qui lui a dit... ils n'ont rien à perdre, je veux être le DG du Canadien de Montréal. Il a même clamé en ces termes, depuis 1993 que le club tourne en rond, c'était quand il a quitté, hein. Il a quitté en 95, il a dit, depuis 1995 que le club tourne en rond, qu'est-ce qu'ils ont à perdre de me donner une chance de voir ce que je peux faire avec ce club-là?
Oui, de toutes les façons, c'est pas lui qui va aller sur la patinoire, il faut le savoir.
Oui, et surtout,
il va pas aller jouer à la place des joueurs.
Non, ça c'est sûr. Mais bon, il connaît.
Il connaît le milieu. Il connaît le milieu, Myriam. Oui, ben, d'accord. Mais ce sont les joueurs qui doivent jouer.
C'est le joueur.
Voilà.
Il ne faut pas oublier qu'il c'était un des meilleurs gardiens au monde. Stanley, deux avec le Canadien, il ne faut pas oublier. Deux avec l'Avalanche du Colorado, parce que quand il a quitté, il est parti jouer pour l'Avalanche du Colorado. Et il a été aussi l'entraîneur de l'Avalanche du Colorado. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Ils l'ont engagé comme entraîneur-chef, eux.
Est-ce qu'il est revenu au Québec?
Ben, il est revenu pour la Ligue des autres du Québec ici. Il est entraîneur des Remparts. Je pense qu'il était à un moment donné aussi.
Ah bon, d'accord. Okay.
Lui, il a quand même de l'expérience en tant qu'entraîneur-chef. Hein. Alors, il veut sa chance. Plusieurs disent oui, pourquoi pas? Parce qu'ici, on l'adore, hein, au Québec, ici, on adore Patrick Roy. Et voilà. Alors, écoute, c'est le questionnement. Est-ce que ça va être Patrick Roy?
Oui.
Francophone, hein?
Il
est célèbre.
Moi, à sa place, je resterai dans mon coin. Et puis, bon, ben, s'ils ont besoin de moi, ils n'ont qu'à venir me chercher. Il n'est pas au chômage de toutes les façons. Oui.
Écoute, donc on va voir. Alors laissons voilà. cela à Jeff, hein, à Jeff Molson, c'est lui qui va décider après tout. Alors, maintenant on passe au soccer international. Je suis sûre que je vais te poser la question. Es-tu d'accord avec les résultats du Ballon d'Or, Fulgence?
Moi personnellement, tu veux mon avis?
Ouais.
D'accord, je te dis non, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas, on va pas gagner coupe de Amérique du Sud et puis on a le ballon d'or là, c'est pas.
Voilà.
Alors, c'est...
Écoute, même les footballeurs sont contre le résultat cette année. Lionel Messi a remporté le ballon d'or 2021, le 7e pour l'Argentin. Alors maintenant, il est haut dans la liste, hein. Personne peut le rattraper là.
Non.
Et il est le premier de l'histoire du Paris Saint-Germain. Eux, ils doivent être contents, les Qataris, hein. Il devance ainsi le classement par le Polonais Robert Lewandowski et Jorginho qui sont arrivés deuxième, respectivement deuxième et troisième. Alors ça crée une grande polémique sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et des médias. Plusieurs footballeurs, des célébrités en activité et à la retraite ont clamé à l'injustice. Je t'en rends compte, hein. Ils ont clamé à l'injustice.
Oui, j'ai lu des messages, j'ai vu des commentaires. Je me suis dit, bon, ben, c'est avec raison d'ailleurs, parce que de toutes les façons, j'aime bien Messi, hein. J'aime bien les Messi, mais c'est pas parce que tu as gagné la Copa América, Amérique du Sud, bien sais quoi, qu'on te donne le ballon d'or en Europe. C'est pas possible.
Surtout qu'il n'a pas fait grand-chose. En Europe,
qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Avant de partir du Barça, qu'est-ce qu'il a fait de spécial?
Voilà.
Mais c'est ça le problème.
Oui, et les gens sont un peu tristes. Pour qui? Pour le Polonais Fulgence, beaucoup pour Lewandowski, qui disait que c'était sa chance. Parce que l'année dernière, il était presque sûr, assuré d'avoir le ballon d'or, mais ils l'ont annulé, la cérémonie, à cause de la pandémie.
Au fait, voilà, c'est là où le bas blesse, quoi. C'est là.
Oui.
Tu te dis, mais au fait, l'année passée, ils ont annulé parce qu'il y avait le maudit virus qui nous foutait les bâtons dans les pieds. Et cette année, c'est revenu, cet événement. Bon, ben, donnons-lui son trophée.
Et son
ballon d'or, et puis c'est tout, quoi.
Voilà. Et Benzema aussi, les gens, beaucoup disaient que c'était son tour, il a très bien joué, écoute, c'est incroyable, il est arrivé quatrième.
Oui.
Alors,
oui.
Il a rêvé lui aussi quelques minutes, mais il n'a pas pu. Donc, et quand même, Lewandowski se console avec un autre prix qui est le prix du meilleur buteur de l'année. Donc, on a créé un nouveau prix cette année.
Ouais, mais ça ne remplace pas le ballon d'or.
Non, ça ne remplace pas. Alors, pour les autres, au fait, je te rappelle qu'il y a un mois, je vous avais parlé que nos Canadiennes étaient en lice aussi pour ça, hein.
Oui.
Le ballon d'or, donc, féminin de la 3e édition, a été donné à Alexia Putellas, qui joue pour le FC Barcelone dans l'équipe féminine.
Oui.
Elle succède à la Norvégienne parce que c'est seulement la 3e édition pour les femmes. Hein, ça fait seulement 3 ans.
Ouais, ça fait 3 ans qu'ils font ça.
Ouais. Ouais. Alors, et l'américaine Megan Rapinoe, celle-là, on le sait, elle avait gagné à la deuxième édition.
La grande Megan.
Oui. Les Canadiennes, ben, je vais vous le dire tout de suite. Christine Sinclair est arrivée 6e dans le classement. Elle joue, rappelons-le, pour le Portland Storms. Et Jessie Fleming, qui était en lice aussi, eh ben, elle est arrivée 9e. Elle joue pour Chelsea.
Mais
maintenant.
Christine Sinclair, elle évolue où? Elle n'évolue pas en Europe?
Non, elle joue en Amérique. Elle est dans la Ligue aux États-Unis. Elle joue aux États-Unis. Elle a Portland Storms.
Elle est tellement bonne qu'elle pourrait évoluer en Europe, celle-là.
Ouais, je pense qu'elle a choisi de rester, je pense, près de
en Amérique du Nord. Peut-être sa famille, ouais, d'accord. Ouais. Ok. Mais elle est très bonne, hein.
Oui. Alors voilà, donc je vais vous rappeler quand même le ballon d'or masculin qui a fait beaucoup parler. Numéro 1, Lionel Messi. 2, Lewandowski. 3, Jorginho. Il joue pour Chelsea. Karim Benzema, 4e. N'Golo Kanté, 5e.
Oui.
Cristiano Ronaldo, furieux, 6e. Il est, à ce qu'il paraît qu'il a boudé, il n'est même pas venu à la réception.
Ouais, bah, tu connais CR7, hein, tu sais. Lui, sincèrement, on savait qu'il allait être encore. Bon, d'ailleurs, ça dépend aussi du comportement des révélations que le président de l'événement
Oui, et il aurait quand même pu être classé mieux que ça, 6e, hein, honnêtement, là, déjà. Lionel Messi, 6e. En tout cas, c'est vraiment une liste. Écoute, Mohamed Salah, l'Égyptien, 7e. En 8e, Kevin De Bruyne. En 9e, Kylian Mbappé. Et le dernier, qui est un gardien de but, Gianluigi Donnarumma. Alors, pour le Paris Saint-Germain, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Ça sera tout pour le soccer aujourd'hui. On continue avec
Je crois que tu as parlé des gardiens de but, parce que bon, il y a des gens qui se plaignent que c'est pas pourquoi c'est pas Mendy qui a été désigné comme meilleur gardien de but.
Non, c'est lui d'ailleurs. Gianluigi Donnarumma qui a eu le prix du meilleur gardien de but.
Ah ouais, tu vois. C'est... Moi, je m'attendais à Mendy.
Non.
Le gardien chat, il fait tous les mouvements, ouais. Là, voilà, celui-là, ouais, vraiment. Ouais. Je m'attendais à Mendy, en tout cas. Bon, c'est pas grave.
On passe au patinage de vitesse.
Oui, qui a gagné encore?
Alors, patinage de vitesse, il faut quand même dire que notre Québécoise Kim Boutin a raflé à la Coupe du Monde. C'était la dernière ligne droite de la Coupe du Monde avant les JO. Alors, c'est un beau présage pour les Canadiens. Après être passés par la Chine, le Japon, la Hongrie, ils sont arrêtés aux Pays-Bas pour finir cette tournée. La Coupe du Monde, donc, avant le retour au pays, Kim Boutin a remporté 3 médailles Fulgence, une en or aux 500 mètres, en argent aux 1000 mètres individuels et par équipe, elle a emporté l'argent. Chez les hommes, Chez les hommes, Steven Dubois a terminé deuxième aux 500 mètres. C'est formidable. Par équipe, ils ont gagné l'argent avec Charles Armelin également. Donc, et la jeune du Nouveau-Brunswick, Courtney Saro, aux 1500 mètres, a emporté l'argent. Écoute, l'équipe canadienne a fait des miracles. Elle a été flamboyante et époustouflante à la Coupe du Monde. Ça donne de l'espoir, un grand espoir de médaille déjà à ce niveau-là. Pour les Jeux Olympiques.
C'est un sport que j'aime beaucoup. Hein. Mmh.
Oui, c'est très beau à voir, hein, d'ailleurs.
Oui, très beau. Voilà, c'est puissance et puis esthétique en même temps.
Oui. Mmh. Alors, puisqu'on parle des JO, qui arrivent à grands pas dans 2 mois à peu près, figure-toi qu'on commence déjà à parler de boycott des JO de Pékin. Après 2 mois des Jeux Olympiques d'hiver, on est à 2 mois presque hein, de Pékin, la question de boycotter l'événement en Chine au nom du respect des droits de la personne est à l'ordre du jour. Notamment, le message envoyé au régime Jinping est que le génocide est perpétré contre les Ouïghours reste inacceptable. Joe Biden déjà soulève, hein, il dit que peut-être nous n'allons pas y aller. La décision n'est pas définitive, mais pour l'instant, nous boycottons cela. Alors évidemment, les journalistes ont posé la question au gouvernement canadien qui n'a pas encore déterminé s'il est tenté d'imiter les États-Unis ou le président Joe Biden.
Ou bien d'autres pays européens qui vont dire on ne va pas parce que bon, Chine, ça ne vaut pas la peine. Surtout avec l'histoire de la joueuse, la tennis women. Là.
Exact. Mmh. Alors la ministre des Sports, Pascale Saint-Onge, donc fédérale, s'est contentée de dire que la décision n'a pas encore été prise, que l'on est toujours en discussion avec nos alliés. Oui. Bien sûr, ils doivent discuter avec l'Europe aussi. Hein. Et que le gouvernement respecte l'indépendance des comités olympiques et paralympiques canadiens. C'est-à-dire que si le comité il dit « ben nous, on veut y aller », ils vont quand même discuter avec eux, là.
Oui.
Alors donc, le boycott est à l'ordre du jour. Maintenant, pour finir, justement, sur l'Asie, tu vois, comme tout s'enchaîne,
Oui. Sur toi
qu'il y a eu une annonce hier, la WTA, celle qui gère le circuit des dames au niveau du tennis, le président Steve Simon a annoncé hier, officiellement, la suspension de tous les tournois en Chine en raison de l'affaire Peng Shuai. Alors, ça a été une bombe qu'il a annoncée hier.
Bonne nouvelle.
Donc, pour 2022, parce que les tournois sont terminés pour cette année.
Oui.
Donc, selon le communiqué, le président précise, je vais dire ses mots exacts, la WTA fera tout son possible pour protéger ses joueuses. Parallèlement à nous, j'espère que les leaders du monde vont continuer à se manifester
Oui. Pour
que la justice soit rendue à Peng Shuai et toutes les femmes, quelles qu'en soient les conséquences financières, parce que les Chinois sont pas contents, hein, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent.
Ouais, ils sont pas contents, ils n'ont qu'à changer de style, c'est tout, quoi.
Exact. Mm-hmm. Alors, selon plusieurs, dont la WTA, sa réapparition est suspecte et peu convaincante, Steve Simon ajoute qu'il était clair que ses réponses étaient influencées par d'autres, ajoutant qu'il demeurait profondément inquiet quant à sa situation actuelle. Alors, c'est terminé pour la WTA pour l'instant.
Et pour terminer,
c'est annulé.
Mm-hmm.
Voilà. C'est fini. Pour
merci.
Cette semaine.
Voilà. Merci beaucoup, Myriam.
On se questionne sur tout ça.
Oui.
On se pose des questions donc, sur le boycott, sur le nouveau des jeux prochains.
Tu vas nous en apprendre la semaine prochaine. Voilà.
Voilà.
Allez, bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine. À la prochaine.
Now you listen. This is Wally Badaru from back in the day.
All right.
Really awesome song. Yeah. Do something with it.
This is a special dedication, everybody, man.
I just listen up now. Hey, Jay Martins.
Sweet me,
Baba.
See the way you make me feel. I say now my birthday, hey. You the tingling of my heart.
You the tingling, hey. My heart.
See, you the tingling of my soul.
You the tingling,
I see that you be my star, oh baby. That you be.
shine, honey. Without you, how I go shine? If you leave me, how you go be? Baby, when you call my name, it'll make me to cool my temper. Hey, Biko, Biko, come back to me. Eva, Eva, eh. Eva, 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 eh. Oh, oh, oh. Eva, 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 eh. Sucka, sucka. Eva, 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 eh. Oh, oh, oh. Eva, 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 eh.
Listen up, sucka, sucka. See, some just a toxic. Me and you no go last year. But I know the shake, oh baby. Cause I love no be wanting to fair. My friends see me the one I before. How we the play this loving? Now because we love each other. Man, the gun that jealous thing. So, you're my one and only. You the sick like honey. You the make my heart go tingly. Eva, 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 oh, oh. You're my one and only. You the sick like honey. You the make my heart go tingly. Your love no be wanting to fair.
Oh yes, Jay Martins, Yves, voilà. Bon, bah, avant de passer à... avant d'aller vers la fin de la première partie de l'émission, je vais parler des 180 millions de personnes qui auront besoin d'aide d'urgence de l'ONU en 2022. C'est un record, près de 180 millions de personnes. Selon l'ONU, l'Afghanistan est le pays dans la situation humanitaire la plus extrême du monde, avec 2/3 de sa population ayant besoin d'une aide d'urgence. Oui, ça, on le sait, mais comment on peut remédier à ça? Comment il faut y parvenir? Comment leur envoyer de quoi manger, de quoi se soigner? Comment, ou bien, comment le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, bien OCHA, comme vous voulez, OCHA, qui a publié aujourd'hui, 2 décembre, son rapport des besoins humanitaires dans le monde pour 2022. Alors, avec ces crises humanitaires en Afghanistan, en Syrie, Yémen, Éthiopie, entre autres, l'organisation estime qu'elle a besoin d'au moins 40 milliards de dollars pour pouvoir venir en aide à ces 183 millions de personnes en 2022. C'est tout un record, quoi. C'est vraiment... Il y a une personne sur 29 dans le monde qui aura besoin d'une aide humanitaire d'urgence, hein. Ouais, estime l'organisation. Donc ses besoins s'avèrent 17% supérieurs par rapport à l'année passée, une année déjà record. Ça, c'est pas une nouvelle qui donne de la joie ou bien de la gaieté, hein. Voilà. Et puis du côté des technologies, il y a la Finlande, le Slash. Le Slash est le plus grand salon des nouvelles technologies d'Europe qui se tient à Helsinki. Pourquoi en Finlande? Voilà. C'est depuis hier. Et ça finit là. Demain, si je ne me trompe pas, c'est 3 jours de salon. Voilà. Le Slash. Oui. Vous savez, Nokia vient de ce pays, donc c'est la raison. Peut-être que, bon, ben c'est grand, hein, c'est grand. Combien d'entreprises là? 3200 start-up et puis 1500 investisseurs. Ça continue jusqu'à demain. Ça a commencé hier, demain. Alors, on termine cette première partie de l'émission avec Blacko, l'encre de tes yeux. C'est une reprise.
Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes.
L'encre de tes yeux, une reprise. Bon, l'original, c'est François Carvalho, bien sûr. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicité, on va recevoir Luc Langevin qui va nous parler de son spectacle numérique interconnecté. J'ai hâte de découvrir ce qu'il va nous raconter. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
Escale 1718 avec Fulgence Blas.
Been.
questions de la part de J.S. Ondara. Wow. Ça, c'est la musique. Ce garçon avec sa guitare et sa voix. Voilà, notre invité déjà au bout du fil, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Et quand je vois ses vidéos, je me dis, mais comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va nous expliquer pour que je puisse comprendre un peu ce qu'il nous fait découvrir chaque fois que il est en spectacle. Voilà, et très jeune d'ailleurs, il a sa curiosité, son désir, et on permet de comprendre et pousser, plonger dans l'univers de l'illusion. Parallèlement, il a entretenu une grande passion pour la science physique. Alors, il est là avec nous aujourd'hui pour nous parler de son spectacle numérique. J'aimerais bien savoir comment. J'ai vu une séquence là, je suis allé sur le web, j'ai regardé, j'ai dit, mais comment il va, comment il s'arrange, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est Luc Langevin qui va nous parler de ça. En même temps, vers la fin de l'entrevue, on va parler, il est l'un des porte-parole de la guignolée des médias, en fait, d'une pierre deux coups. Bonjour Luc Langevin.
Bonsoir,
merci. Merci d'avoir eu le temps de venir nous parler de ce spectacle numérique. J'ai bien hâte de découvrir ça, comment vous vous y prenez. Et pour ceux qui ne connaissent pas la magie de ce monsieur, de Luc, il n'est pas là pour sortir des lapins, des machins de chapeau, machins et autres. Là. C'est beaucoup plus scientifique que ça. Alors,
oui, effectivement.
Voilà, cette curiosité de l'enfance là, d'où est venu ça pour arriver là?
Comme tous les enfants, je pense, j'étais fasciné par la magie la première fois que j'en ai vu. Il y avait quelque chose de très attirant, je trouvais, de voir des effets, des choses qu'on ne comprend pas, qui vraiment semblent magiques.
Oui.
Moi, ça m'a tout de suite fasciné. Je pense que c'est la curiosité qui m'a attiré d'abord. La curiosité de savoir comment ça fonctionnait, comment un magicien pouvait faire léviter des objets ou en faire disparaître ou apparaître.
Oui.
Faut dire que j'avais déjà, je pense, un esprit scientifique, et lorsqu'on a cette curiosité, qu'on se pose des questions comme ça, il y a quelque chose de très intriguant autour de magie.
Oui.
Donc je pense que c'est ce qui m'a attiré en premier, le fait d'émerveiller les gens aussi, d'attirer l'attention. Très jeune, j'essayais. Je suis le deuxième enfant d'une famille de trois, donc c'était souvent ma sœur plus vieille ou mon frère plus jeune qui attirait l'attention de mes parents.
Oui.
Donc je devais trouver ma place. J'ai vu en la magie un outil pour le faire.
Luc voulait prendre sa place.
Voilà.
Alors donc, il a fait. Oui, allez-y.
Non, c'est la raison pour laquelle la magie m'a attiré. Et puis c'est une passion qui n'a jamais diminué par la suite, autant à l'adolescence qu'à la vie adulte. La passion a toujours été nourrie et aujourd'hui, ça en est ma profession, mon métier.
Oui. Alors là, si on me dit que je vis d'autres choses, là, je vais dire non, c'est pas possible. Alors que Luc est en train de terminer une maîtrise en optique et commencer un doctorat en biophotonique, la société de production Téléfiction découvre le potentiel de ce jeune artiste-là. Comment la découverte a été faite? Et puis bon, est-ce que vous avez dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Qu'est-ce que je peux faire là?
Oh, non, en fait, je cherchais à être découvert.
Ok.
c'était vraiment un rêve que je cultivais d'être découvert par un producteur ou par une grande société qui serait prêt à me produire,
oui.
À m'assister dans mon rêve de devenir un magicien, un illusionniste professionnel.
Oui.
Et à l'époque, comme c'est ce que je recherchais, en fait, j'avais fait moi-même mon propre site web. Je m'étais fait un DVD démo où j'avais fait un montage des différents numéros que je savais faire, et j'allais porter ce démo à tous les producteurs de festivals, tous les compagnies d'événements.
Oui.
Et il y a pas grand-chose qui se passait jusqu'au jour où cette maison de production, Téléfiction, une maison de production de Montréal, m'a envoyé un courriel. Ils cherchaient un magicien pour faire une série télévisée qui va s'appeler plus tard Comme par magie.
Oui.
Et qui est une série télé où un magicien déambulait dans les lieux publics et faisait des tours de magie aux gens avec les objets qu'il avait sous la main.
Oui.
Donc les objets qui étaient sur place ou qu'il empruntait aux gens qui étaient là. Donc j'ai passé l'audition, on était environ 25 magiciens en compétition à l'audition, et j'ai eu la chance d'être celui qu'ils ont retenu.
Oui.
Et c'est là que tout a commencé pour moi à la télé. En fait, c'est là que j'ai commencé à faire de la télé. Et la série a connu un très grand succès.
Oui.
Et c'est ce qui a lancé vraiment ma carrière là, dans le monde des médias.
Bravo. Ensuite, avec la collaboration en 2010 avec Radio-Canada et RTV, et puis sans compter plein aux limites d'Illusion 2, qui a reçu le prix Gémeaux du meilleur spécialiste, du meilleur spécial de variété ou des arts de la scène, sans y compter ça. Et puis, moi, ce qui me fascine encore, c'est pas ce côté illusionniste, mais votre engagement dans les milieux communautaires. Ça, là, on va en parler plus tard. Voilà. Restons concentrés sur le spectacle numérique. Qu'est-ce que vous nous proposez là? À quoi on s'attend?
Ben, en fait, mon spectacle numérique s'appelle Interconnecté.
Oui.
On l'a lancé il y a environ un an, presque jour pour jour. C'était le 4 décembre 2020 qu'on l'a lancé.
Oui.
Et à l'époque, c'était un peu la façon pour moi de survivre à la pandémie, étant privé complètement des performances sur scène.
Oui.
Et même au début de la pandémie, si on se souvient bien, même les tournages télé étaient interdits. Hein.
Oui.
Donc, j'ai commencé à réfléchir et à me demander comment je pourrais amener de l'émerveillement aux gens tout en respectant les mesures sanitaires.
Oui.
Et j'ai passé 6 mois à concevoir ce spectacle.
6 mois?
Oui, 6 mois, ça a été très long.
Oui.
Parce qu'il a fallu développer la plateforme numérique qui pouvait le soutenir.
Mm-hmm.
Et le spectacle, en fait, c'est un spectacle que lorsque les gens achètent un billet,
oui,
en fait, ils reçoivent une connexion sécurisée.
Oui.
Et ils sont appelés à cliquer sur ce lien, finalement, à une date et une heure précise. Et ils vont assister alors en direct au spectacle. Donc, ils vont être connectés en direct avec moi. Donc, je peux les voir. Ils peuvent me voir. Et c'est environ 1h20 de spectacle où ce sont les gens, en quelque sorte, qui vont déterminer l'issue des tours de magie. Donc, par le biais de la vidéoconférence, je m'adresse directement aux spectateurs et je leur demande de me nommer, par exemple, un objet. Et c'est l'objet qui me nomme, que je fais apparaître, par exemple. Ou bien ils me nomment une carte à jouer et c'est cette carte qui apparaît ou qui se téléporte. Et bref, les gens ont vraiment un impact sur l'issue de chaque numéro.
Oui.
Et la magie se produit partout, dans leur boîte courriel, entre leurs mains, même chez les gens. Même si on est en virtuel, je voulais que la magie sorte de l'écran. Et c'est ce qui se produit, et je pense que c'est ce qui fait le succès de ce spectacle.
De ce spectacle-là, Interconnecté. Ouais, oui, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez sortir. Moi, je vous ai vu en train de croquer des sorties une pomme, là. Quand j'ai dit, mais les gens étaient, oh, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, oui, des cartes. Bon, on va faire une petite pause musicale. Et puis, on va continuer cette conversation concernant Interconnecté spécial spectacle numérique.
Parfait.
Merci.
On peut perdre son travail lorsqu'on a des ratés. On peut perdre son crédit lorsqu'on est endetté. On peut perdre sa mémoire, on peut perdre sa maison, perdre sa fougue et même perdre la raison. On peut perdre sa richesse sur un seul coup de dé. On peut perdre sa jeunesse comme on perd une clé. On peut perdre son courage dans le fond d'une bouteille, perdre ses rêves ou son âme, c'est pareil. Mais un ami, c'est pour la vie, quand tout s'écroule, quand rien ne nous réussit. Un vrai ami, malgré le froid, ça reste là. On peut perdre sa route à cause d'un faux détour, on peut perdre son cœur à cause d'un vieil amour. On peut perdre sa vie à vivre dans le passé, on perd même parfois le goût d'aimer. Mais un ami, c'est pour la vie, quand tout s'écroule, quand rien nous réussit. Un vrai ami, malgré le froid, ça reste là, ça reste là. Car un ami, c'est bien plus fort que tout, même plus fort que la mort. Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit. «
On peut perdre son honneur lorsqu'on est humilié. On peut perdre son calme lorsqu'on est bousculé. On peut perdre son temps à trop compter les heures. On perd tout lorsqu'on vit dans la peur. Mais un ami, c'est pour la vie. Quand tout s'écroule, quand rien nous réussit. Un vrai ami, malgré le froid, ça reste là, ça reste là. Car un ami, c'est bien plus fort que tout, même plus fort que la mort. Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit. Gardez vos amis.
Nicolas Ciccone, un ami. Voilà. Peu d'illusionnistes à travers le monde ont pu atteindre ce niveau de crédibilité et de notoriété en si peu de temps. Il s'agit bel et bien de Luc Langevin. Voilà. Voilà, c'est vous ça. Oui. Vous êtes surpris par votre notoriété?
Oh, ça me surprend à chaque fois.
Oui.
Ça s'est passé très vite, il faut dire. Je suis passé de l'ombre à la lumière en peut-être une année. Ça s'est fait. Je suis passé d'un étudiant totalement inconnu à pratiquement le visage de la magie au Québec. Donc, ça me surprend toujours d'entendre les descriptions comme celles que vous faites.
Oui. Non. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime bien ce que vous faites. Alors, je me suis dit, avant l'émission, je me suis dit, tiens, il ne faut pas qu'il arrive à couper mon micro avec sa magie.
Hein. C'est pas dans mon intérêt.
Ah là, là, ce qu'on ne peut plus l'entrevue.
Voilà.
On est en direct. Alors, le spectacle numérique, là, comment ça se passe? Ça dit que, bon, si je prends mon billet, il y a un lien que je vais... Il n'y a pas de date, hein. À tout moment, je peux être connecté.
Non, en fait, on annonce des dates de spectacles,
oui.
Un peu comme des spectacles conventionnels.
Oui.
Donc, on annonce, par exemple, que samedi, à telle date, à 20h, il y aura une représentation.
Oui.
Et les billets sont vendus sur mon site web. En fait, donc les gens peuvent choisir la date et l'heure pour lesquelles ils veulent se procurer une connexion.
Oui.
Et il y a deux types de billets, deux types de connexions.
Oui.
Il y a les billets qu'on nomme « premium », qui, eux, sont justement garantissent une interaction personnelle,
ouais,
avec moi. Donc, ces gens-là seront présents à l'écran. On va les voir et c'est avec eux que je vais interagir personnellement tout au long du spectacle.
Ouais.
Et il y a des billets réguliers qui sont moins chers,
mmh,
et qui, eux, font qu'on assiste au spectacle en direct, mais on nous voit pas à l'écran. Donc, je n'interagis pas directement avec ces gens-là.
Oui.
Mais ils nous suivent en direct et ils peuvent vivre la magie malgré tout. Les tours qui se passent dans la boîte courriel,
oui,
ou entre les mains, ils peuvent les vivre également.
Mmh.
Donc, il y en a pour tous les goûts.
Il y en a pour tous les goûts. Et puis, une précision, c'est que bon, le billet dont vous venez de parler, la catégorie premium, permet quand même à 23 spectateurs de participer en direct au spectacle.
Oui, c'est ça.
Voilà. Voilà. D'accord. Quelle serait la prochaine date?
La prochaine date, je crois que c'est le 27 décembre.
Le 27 décembre, oui.
Ouais, en fait, je vais faire des spectacles à tous les jours entre Noël et le jour de l'an, donc les 27, 28, 29 et 30 décembre.
OK.
Je fais des représentations à tous les soirs à 20h et l'après-midi même, je fais des représentations pour les Européens parce que pour eux...
Avec le décalage horaire.
Voilà. Mmh. Donc, c'est très magique, en fait, pour moi, de faire un spectacle pour la France, revenir manger chez moi et retourner faire un spectacle pour le Québec ensuite.
Ensuite, c'est que vous êtes connu mondialement.
Et voilà.
Alors, Luc, on va parler de votre engagement social.
Oui.
D'où vient ça? D'où vient ça?
Je crois que ça...
Vous avez toujours donné à l'autre, tendu la main aux autres.
En général, oui. J'ai souvent été porte-parole de plusieurs organismes de charité ou impliqués socialement.
Oui.
En fait, pour être honnête, quand j'ai connu le succès, j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur et je ressentais en quelque sorte le besoin de redonner, comme si je méritais pas tout l'amour.
Ah non, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un imposteur quand même.
Non, je sais, j'ai fait le deuil maintenant avec ça.
D'accord.
Mais ça a quand même développé le réflexe chez moi de donner au suivant.
Oui.
Et d'essayer donner un peu de la lumière que je reçois, de la donner à ceux qui en ont peut-être plus besoin que moi.
Oui.
Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
Oui.
Donc, quand je le peux, quand je sens que je peux faire une différence, j'aime m'impliquer.
Oui.
C'est ce que je fais avec la guignolée des médias.
Oui, vous êtes l'un des porte-parole d'ailleurs.
Voilà, je trouvais que c'était la meilleure année pour les aider. Ils m'avaient sollicité par les années précédentes.
Oui.
J'étais déjà impliqué avec d'autres organismes et l'horaire est toujours compliqué pendant le mois de décembre.
Oui.
Mais cette année, j'ai fait un effort parce que je me disais la pandémie a sûrement fait des victimes, des dommages collatéraux chez des gens qui étaient dans une situation plus précaire. Et, oh. et c'est effectivement ce que les statistiques que disent. Donc, je me suis dit, c'est le bon moment pour m'impliquer avec eux.
Bravo. Merci beaucoup de tendre la main et de savoir donner aux autres. Mais je vous le redis, vous n'êtes pas un imposteur.
Merci. Je prends bonne note.
Alors, un petit clin d'œil au spectacle sur la scène, c'est à la frontière de la vérité. J'ai vu là, sur votre site, presque tout est booké là-bas déjà, depuis septembre 2022 jusqu'en décembre. J'ai dit, mon vieux, il faut qu'on parle un peu de ça aussi, non?
Oui, je veux bien.
Oui, parlez-nous un peu de ça rapidement.
Oui, c'est mon prochain spectacle sur scène. Donc, les représentations vont commencer en septembre prochain.
Oui.
Ça s'appelle Vérité. Je trouve que le thème de la vérité, en fait, est très, très riche. Je trouve ça aussi drôle qu'un illusionniste parle de vérité.
Oui.
Mais j'ai découvert avec les années que la notion de vérité est très abstraite, très élastique même. Je trouve que parfois la ligne entre la vérité et le mensonge peut être très, très floue.
Oui.
Et c'est ce que je veux partager avec les gens avec ce nouveau spectacle, leur montrer que parfois, que peut-être en fait la vérité, c'est seulement un grand mensonge sur lequel on s'entend tous. Et donc, c'est le message que je compte livrer avec ce spectacle où il y aura des illusions originales qu'on développe sur mesure. Des illusions, la magie va se produire au-dessus de la tête des gens, en dehors des murs du théâtre, même dans le lobby des salles de théâtre. J'essaie de faire de la magie ou autrement, finalement, mm-hmm. des choses que les gens n'ont jamais vues. Et c'est ce à quoi on peut s'attendre avec ce spectacle.
Oui. C'est très poétique. Hein? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Où trace-t-on la ligne entre le possible et l'impossible? Et j'ai dit non, mais je ne veux pas laisser Luc comme ça partir sans parler de ça, quoi. Et tout est... J'ai vu les dates même jusqu'en décembre 2022 déjà.
Ben oui. Il faut croire qu'il y a une demande pour la magie, pour l'émerveillement.
Oui.
Les gens en ont bien besoin.
Vous le faites si bien, ça, il faut le dire.
Mais merci.
Oui.
Merci beaucoup.
Oui. Un dernier mot pour à l'égard, en tant que porte-parole de la guignolée des médias, pour ceux qui ont envie de donner quelque chose en tant que porte-parole.
Oui, on peut donner de plusieurs façons. D'abord, on peut le faire en ligne sur le site web de la guignolée. Donc, c'est guignolée.ca.
Oui.
On peut aussi texter le mot Noël, tout simplement, au 20222.
Oui.
Et ça fera un don de 10$ automatiquement à partir de notre compte là, de téléphone cellulaire. Et on peut aussi se rendre dans tous les Jean Coutu, les Maxi, les Provigo pour donner des denrées non périssables.
Oui.
Donc, ce sont tous des points où on peut donner. On n'est pas obligé de donner de la nourriture aussi. On peut donner des jouets ou n'importe quoi qui fait plaisir. Donc, le but, évidemment, c'est d'apporter un peu de joie, de lumière aux gens pendant le temps des fêtes. Donc, n'importe quoi qui est non périssable.
Oui.
C'est bon et ça fait plaisir. Ouais. Voilà.
Merci beaucoup, Luc Langevin.
C'est un plaisir.
Mon illusionniste préféré.
Ben merci, ça me touche.
Allez, bonne guignolée, bon spectacle, et puis en ligne. Et puis bon, ben, quand vous allez commencer en 2022, vous dites bon spectacle sur scène avec À la frontière de la vérité. Et je vous souhaite bon vent.
Merci, je vous serai le bienvenu, je disparais maintenant.
Oh là là! Merci.
Au revoir.
Au revoir. Inconditional love, l'amour inconditionnel. On termine l'émission comme ça avec cette belle chanson. On dit merci à, j'ai dit merci à Myriam Larache qui est venue nous remplir les oreilles avec les nouvelles sportives. Et puis à notre invité Luc Langevin avec son spectacle numérique interconnecté. Voilà, ça commence les prochaines dates, comme il a dit, le 27, 28, 29, 30 et 31 décembre. Restez à l'affût pour aller le voir. Connecté avec vous. Merci à toi Maurice Bolduc. Merci à nos auditeurs et auditrices fidèles à cette émission. Et puis bon ben, on se retrouve demain. Voilà, pour la dernière de la semaine. Voilà. Bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis ciao.